Habemus Papam.
Milieu du 5e siècle. L'Empire romain est en pleine décadence. Il subit les attaques des Francs, des Visigoths, des Vandales, des Huns et des Burgondes. Henri Prabis, professeur agrégé d'histoire, spécialisé dans l'histoire des papes et des saints, nous parle de celui qui est alors élu sur le trône de Saint-Pierre, celui qui deviendra Léon le Grand.
Saint Léon le Grand était venu très jeune à Rome et il avait été chargé de mission auprès de Saint-Augustin. Donc il s'était trouvé archidiacre de Rome en 430, conseiller d'un premier pape qui s'appelait Célestin Ier, puis de Sixte III. On l'avait envoyé en Gaule et il avait été élu pape durant son absence en 440. Il n'a pas la culture, si vous voulez, de Saint-Ambroise et de Saint-Augustin. C'est pas, si vous voulez, un très très grand théologien. C'est plutôt un moraliste qu'un théologien et un philosophe. Et l'écriture, c'est pour lui une source de commentaires. C'est l'auteur du premier missel. Ça deviendra, d'ailleurs, le sacramentaire léonien.
Rome est très fragile. Valentinien III n'a pas les moyens de faire face à l'invasion barbare. Et en 452, les hordes d'Attila ravage le nord de l'Italie et s'apprête à attaquer Rome. Léon est alors envoyé pacifiquement à la rencontre de celui qu'on appelle le fléau de Dieu.
C'était une mission très pénible qu'on demandait au pape. Vous rendez compte, on l'envoie, personne n'arrivait plus à repousser Attila. Le général romain qui s'appelait Aetius se déclarait incapable de faire face aux barbares, vous rendez compte. Et alors c'est l'empereur et le sénat qui n'ont rien trouvé de mieux que d'envoyer une députation à Attila pour lui demander la paix. Et à ce moment-là, la mission, comme elle était pénible, on a demandé au souverain pontife de s'en charger. Et Léon a accepté. C'est ça, vous voyez, le berger, le pape, c'est le berger de l'Église. Il a accepté, accompagné d'hommes respectables. Et cette confiance n'a pas été trompée, parce que Attila l'a reçu dignement. Et heureux de la présence du pontife, honoré, il a mis fin à la guerre et il s'est retiré au-delà du Danube après avoir promis la paix. La rencontre eut lieu aux environs de Mantoue. Il y a une tradition vénérable qui s'est formée autour de cet événement. Et on a attribué tout le succès de la mission à l'influence de l'apôtre Saint-Pierre. On dit que l'apôtre Saint-Pierre se serait montré devant Attila pour lui ordonner de la part de Dieu d'écouter la prière du souverain pontife. C'est ça qui a impressionné énormément.
Frappante et célèbre, la rencontre est racontée dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Et elle a inspiré de nombreux peintres.
Il a été représenté sur les fresques, vous voyez, de Frangelico au Vatican, par une statue du portail des confesseurs au transept sud de la cathédrale de Chartres. Et puis, Saint Léon arrêtant Attila, c'est le sujet de cette célèbre peinture de Raphaël au Vatican, dans la chambre d'Héliodore.
Quelques années plus tard, ce sont les Vandales qui attaquent Rome. Et une nouvelle fois, Léon Ier négocie avec eux.
Ils sont entrés dans Rome en 455, les Vandales. On n'a pas pu empêcher le pillage. Le pillage de Rome a quand même duré 14 jours. Mais Saint Léon a obtenu qu'on ne touche pas aux habitants, ce qui était énorme. On a respecté les Romains. Ils ont pillé la ville, ils ont emporté un immense butin, des prisonniers. Mais il avait quand même obtenu de Genséric que ses soldats ne verseraient pas le sang humain et ne brûleraient pas les édifices. Le pillage de Rome a cessé probablement le 29 juin, qui est le jour de la fête de Saint-Pierre. Et il y a une cérémonie d'action de grâce qui a été célébrée dans l'octave de cette fête pendant un certain nombre d'années. Et on trouve une allusion à cette délivrance dans un sermon que Léon a prêché à cette occasion. Et d'ailleurs, il se plaint, vous voyez, comme il avait de l'humour, que le peuple oublie trop vite cette date.
Mais si Rome est alors fragile, l'Église l'est encore davantage. Après 4 siècles de vie, elle s'effrite.
Chaque église locale et régionale voulait en faire à sa tête. Donc il est là sans cesse pour quand même rappeler aux évêques des différentes régions qu'il faut obéir à Rome, que le successeur de Saint-Pierre est à Rome. Sinon, on tombait très vite dans les sectes. Il est intervenu encore en tant que pontife suprême en Gaule contre l'évêque d'Arles en 449, en Espagne, où le clergé était assez apathique, et en Afrique, où il a rappelé aussi l'autorité du siège apostolique.
Mais Léon va aussi sauver l'unité de l'église en évitant un schisme avec l'Église d'Orient, schisme qui interviendra finalement quelques 600 ans plus tard.
Ça va très mal déjà avec les Orientaux, et Saint Léon essaie de garder l'unité de l'Église, l'unité christologique de l'Église. Pour lui, c'est essentiel. C'est pour ça qu'il va faire réunir ce concile de Chalcédoine en 451. Ce sont ses légats qui font triompher au concile de Chalcédoine la thèse unique du concile de Nicée.
Dans son audience générale du 5 mars 2008, Benoît XVI a rendu hommage à cette action pour l'unité de l'Église.
Ce pape avait le souci de l'unité entre toutes les églises et une grande attention à leurs besoins. Il proclama fermement sa foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans une lettre adressée à l'évêque de Constantinople qui fut lu au concile de Chalcédoine et acclamé par les participants, Pierre a parlé par la bouche de Léon. Que le mystère de l'incarnation du Seigneur ne reste pas étranger au genre humain, mais nous délivre du péché, affirmait-il.
Couramment appelé le Grand, comme seul Saint Grégoire avec lui, Léon Ier a été fait docteur de l'Église.
Ce qui montre quand même sa reconnaissance par l'Église, c'est que Benoît XIV l'a proclamé docteur de l'Église en 1754. Il est à la fois diplomate, homme politique, il va à la rencontre des barbares et dans le même temps, il faut aller visiter toutes ces églises et garder l'unité de l'Église. C'est vraiment un pape extraordinaire.
C'était Henri Prabis, professeur agrégé d'histoire et spécialiste de l'histoire des saints.